9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS pour À Votre Squelette. Bonjour et bienvenue. Nous allons parler ce matin de l'hygiène du dos avec mon invité. Je reçois Jean-Christophe Berlin. Bonjour et bienvenue Jean-Christophe.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute spécialiste en médecine du sport et écrivain.
Oui, c'est bien résumé.
Vous avez créé une méthode en 5 étapes pour entretenir le dos, prévenir et soulager les douleurs, une méthode qu'on retrouve dans votre livre qui s'appelle 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos au courrier du livre. Et votre livre de référence, c'est le livre du papa d'un célèbre chanteur qui s'appelait Carlos, un livre de Boris Dolto qui s'appelait Le corps entre les mains. Et il faut rappeler, parce qu'on n'en parle jamais, de Boris Dolto, c'est lui qui a créé en France le diplôme de kiné.
C'est ça. En 1945, juste après la guerre, en fait, c'était un médecin russe vivant en France et il a créé effectivement le diplôme de kinésithérapeute, le diplôme d'État. En fait, ce qui fait qu'on a un diplôme d'État aujourd'hui, c'est grâce à lui.
Ouais, à son
et
papa.
C'était le père de Carlos.
Oui, qui venait de Russie. C'est marrant parce qu'on a toujours dit de Carlos que c'était le fils de Françoise Dolto, et on en parlait tout le temps, mais on disait jamais que c'était le fils de Boris Dolto.
Dans le monde des kinés, il était connu, Boris Dolto, mais effectivement, c'est un monde un peu fermé, mais on connaissait mieux Françoise qui a été plus connue, effectivement.
Voilà, donc c'est au papa de Carlos qu'on doit ce diplôme, et on rappelle pour tout le monde que la kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement.
Oui, kinés en grec, ça veut dire mouvement, donc c'est le traitement par le mouvement, c'est littéralement, ça veut dire ça, effectivement.
Le dos, vous connaissez bien, hein, vous-même. Quand je dis vous connaissez bien en tant que rugbyman, et que les rugbymen, à partir d'un certain âge, ont tous mal au dos.
Oui, moi je connais bien le dos parce que j'ai travaillé longtemps dans un service de chirurgie du dos. La chirurgie du dos, c'est 10%. Hein, il y a 90% qu'on traite autrement. Mais il y a quand même 10% qu'on opère. Et moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans un service de chirurgie du dos. Donc j'ai vu effectivement beaucoup de dos mal en point.
Et la méthode que vous avez créée, c'était justement pour ceux qui venaient se faire opérer. Hein,
exactement.
Pour les aider à récupérer.
C'est parti en fait d'une idée d'un chirurgien. Et quand un chirurgien a une idée, il faut s'y tenir parce que sinon ça marche pas bien. Il m'avait dit simplement, est-ce que tu pourrais faire des exercices pour mes patients qui sont opérés? Et donc j'ai commencé à le faire, et puis finalement, de fil en aiguille, on a fait un livre, et voilà.
Avec une préface de Dominique Bonneau qui raconte vous avoir rencontré à l'hôpital de Dakar et qui vous a confié souffrir de douleurs dorsales. Et là, vous lui faites découvrir la méthode de Jacobson pour Edmund Jacobson, donc Shkoun Jacobson.
Oui. En fait, c'est une méthode de relaxation. On oublie souvent la relaxation, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la relaxation, le relâchement musculaire, c'est très important dans pratiquement tous les traitements, et en particulier pour le dos, parce que le dos est souvent très tendu, les muscles sont très tendus, et si on ne relâche pas correctement ces muscles, on ne peut pas assouplir correctement. Et si on ne peut pas assouplir, on ne réussit pas notre traitement.
Il y a énormément d'exercices de relâchement musculaire.
C'est important.
Dans votre livre.
Oui.
Mais pourquoi cette méthode? Qu'est-ce qu'il avait inventé de particulier, le fameux Edmund? Parce que moi, je ne le connaissais pas. Hein. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé, et là, effectivement, il est super connu.
Oui, c'est effectivement un des pères de la rééducation moderne. Et effectivement, il a mis au point cette technique de relaxation. Il faut savoir que les Suédois était assez au point dans la remise au goût du jour des traitements physiques. C'est eux qui ont relancé, si vous voulez, ce qu'on faisait autrefois. Ils l'ont relancé au début du 19e siècle, et en fait, c'est eux qui ont mis au point la plupart des techniques de médecine physique.
Le principe de base est le suivant. Toute forme de tension psychique en général ou d'anxiété en particulier va toujours provoquer l'apparition d'une contraction au niveau de la musculature.
Ouais,
c'est pour ça que les gens stressés, par exemple.
Ouais. Mais c'est très simple, en fait. Il y a un exemple très simple. Si on a une seconde, je peux vous expliquer. Vous êtes une petite souris, vous êtes dans une pièce, vous mangez votre fromage, tout va bien. Un chat rentre. Et là, la petite souris, elle se contracte de tous ses muscles pour pouvoir partir, pour pouvoir s'échapper. Les muscles sont contractés pour pouvoir se sauver. C'est ça, le stress. Tant que c'est pour se sauver, ça, on va dire que c'est un stress utile. Mais si le stress dure, et c'est ce qui arrive chez la plupart des gens, si les muscles restent contractés, ça finit par être un vrai problème. Donc la petite souris qui se contracte en permanence, c'est pas bon. Et c'est nous quand on est au bureau, c'est nous quand on est assis toute la journée, etc. On est finalement en fin de journée stressé et tendu.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. Notre dos n'est pas fait pour être sédentaire, pour être assis toute la journée.
Bien au contraire, en fait, le dos a été créé au début. On était des cueilleurs-chasseurs, donc on était capable de monter aux arbres, on était capable de gratter le sol. Plus maintenant. Maintenant, on passe 8 heures assis sur une chaise et en fait, le dos se dégénère. C'est vraiment ça. Hein. Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour ça. Le dos, c'est inflexible.
Alors,
il faut retenir ça, c'est inflexible.
Oui, mais qui n'est plus flexible.
Et qui n'est plus flexible. Donc, c'est pour ça qu'il s'altère. En fait, les zones de pression sont toujours les mêmes dans la journée. Vous appuyez toujours au même endroit et elles finissent par se dégrader.
Alors, est-ce que c'est moi ou j'ai mal compris, mais il y a beaucoup d'études qui disent que plus la colonne vertébrale est flexible, plus on a de chances d'avoir mal au dos.
Non, c'est une fausse idée. Il faut garder, alors, il ne faut pas être excessif. Moi, je m'occupe de danseuses, donc les danseuses, elles sont très flexibles. Et les gymnastes aussi. Et on peut avoir effectivement mal au dos dans ces cas-là. Donc, ce qu'il faut, c'est de la mesure, en fait. Il faut garder une souplesse utile. C'est-à-dire qu'on doit être capable de toucher ses pieds. Dans mon livre, je fais...
Alors, il y a des exercices à donner. Alors, il y en a 6, hein, ces exercices.
Oui, oui. C'est des tests, en fait.
Faut que j'aille vous voir, docteur.
Voilà. Si vous répondez pas bien correctement au test, effectivement, c'est que ça ne va pas. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas suffisamment, je dis bien, suffisamment souple. Il s'agit pas d'être extrêmement souple. Il faut être suffisamment tout souple. Et en particulier, un test simple, c'est de toucher ses pieds. Avec les mains.
Et si on ne le fait pas,
on est recalé. Et alors la plupart des gens, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que la plupart des gens ne le font pas, et surtout les jeunes, ça c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'arrive pas à toucher ses pieds, c'est très inquiétant.
Bon, on va tous faire le test, faites le test chez vous. Vous touchez vos...
Moi je les touche encore un peu péniblement, mais encore un peu.
Faudil Bellamri qui réalise l'émission, tu touches tes pieds avec tes mains? Oui, il dit que oui.
Bon, bah, on vérifiera tout à
l'heure.
C'est moi le vieux,
voilà. Mais en tout cas moi j'arrive aux genoux.
C'est pas mal. Mais c'est pas suffisant.
C'est pas mal. C'est encourageant.
C'est encourageant, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc il y a un test dans mon livre. Et voilà,
fait parmi des tests, hein, parce qu'il y a des tests qui sont couchés aussi, que vous pouvez faire. Vous levez les jambes.
Ouais, ouais. Enfin, je vous laisse le faire. Vous verrez bien.
Sinon, faut consulter.
Et absolument. C'est ce qui permet de savoir où on en est avec son dos. Et si on répond pas bien, bah, il faut effectivement faire des exercices.
En l'espace de quelques années, la communication autour du mal de dos a beaucoup changé avec des slogans comme le bon traitement, c'est le mouvement. Avant, on disait qu'il fallait s'arrêter, qu'il fallait s'immobiliser.
Oui, tout à fait. Il y a une campagne gouvernementale qui a été faite là, il y a quelques années, c'était en 2017, pour dire que, effectivement, le bon traitement, c'est le mouvement. Alors, ça tombe bien, kiné, c'est mouvement, donc ça tombe bien. Effectivement, autrefois, on couchait les gens, parfois longtemps. Alors, ça coûtait cher à la société, parce qu'en fait, c'est des gens qui étaient en arrêt de travail. On s'est rendu compte aujourd'hui que c'était pas utile de rester couché très longtemps. On peut rester couché tant qu'on a mal, effectivement, quelques heures, quelques jours éventuellement, mais il faut se relever le plus tôt possible et c'est le mouvement qui va redonner en fait vitalité.
Mmh. Alors vous débutez votre livre par une anecdote concernant Napoléon.
Je suis sûr que ça vous a plu.
Vrai ou pas vrai? J'aime toujours les coups de pied qui se perdent.
C'est ça.
Vrai ou pas vrai?
Vous voulez la raconter?
Mais à ce qui paraît que vous la racontez très très bien.
Je peux la raconter. Ouais,
on m'a dit que, demande à Jean-Christophe son anecdote sur Napoléon, il part au quart de tour.
Effectivement, je commence mon livre comme ça. Effectivement, Napoléon était un grand cavalier parce qu'il était toujours sur des campagnes militaires. Et puis un jour, il était courbé en deux de douleur et il fait appeler son médecin Corvisart. Il croyait pas beaucoup à la médecine, mais il disait, je crois pas à la médecine, mais je crois en Corvisart. C'était son médecin favori. Et il était donc courbé en deux, ce pauvre Napoléon. Donc Corvisart lui dit, sire, prenez, appuyez-vous sur une chaise et présentez-moi vos fesses. Et à ce moment-là, il lui administre un grand coup de pied dans les fesses. Alors Napoléon se retourne un peu interloqué et en se retournant, il débloque son dos puisqu'en fait la manipulation qu'il a faite pour se retourner a fait qu'il a débloqué son dos. Alors est-ce que c'est l'ancêtre des manipulations? C'est possible. Mmh. Est-ce que la manipulation était réelle? C'est possible aussi. Est-ce que c'est une fausse anecdote? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle me plaît bien.
Mmh. Mais vous êtes très prudent avec les manipulations.
Oui.
Alors, est-ce que c'est la vieille guéguerre ostéo-kiné ou il y a quand même des messages de prévention qu'il faut faire passer?
Oui. En fait, le vrai problème de l'ostéopathie, c'est la formation. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois en France, ne pouvaient être ostéopathes que les médecins d'abord, dans un premier temps. Il fallait être médecin d'abord et ensuite, vous pouviez faire une spécialité d'ostéopathie. Ensuite, ça s'est démocratisé, les kinés ont pu le faire. Et aujourd'hui, ils sont formés de première intention. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres, les ostéopathes. Comme dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, ils n'ont pas d'autre formation que l'ostéopathie. Or ça c'est un problème parce qu'en fait ils ne voient pas de malade, ils ne voient aucun malade, ils ne sont pas formés à l'hôpital, ils ne voient pas de malade, jamais. Donc ils ont du mal à faire un diagnostic différentiel, savoir si c'est pas grave de manipuler. Par exemple quelqu'un qui a un cancer, il ne faut pas le manipuler. Mais il faut pouvoir faire le diagnostic, et s'il n'y a pas de diagnostic, on met les gens en danger. C'est ce qui me gêne un peu dans l'ostéopathie, et surtout la formation qui à mon avis n'est pas suffisante aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de diplôme d'État.
Donc avant d'aller voir un ostéopathe, conseil, vérifier le diagnostic et écarter toutes les causes.
Vous voyez un médecin d'abord et après, effectivement.
Bon, ce qui est rassurant dans votre livre, c'est que le secret, c'est la prise en charge et la régularité. Mais il n'y a pas besoin d'y passer tant de temps que ça.
Non. D'ailleurs, si j'avais dit faites 3 heures de gym par jour, j'aurais perdu tout le monde. Donc, il faut être.
D'ailleurs, vous l'incarnez bien.
Oui.
Votre message est incarné.
Donc, il faut être honnête. Si vous faites déjà 5 minutes par jour, c'est déjà bien. Et en fait, il faut considérer ça un peu comme une hygiène. C'est-à-dire quand on se lave les dents, on se lave pas les dents 3 heures pendant une journée par semaine. On se lave les dents un petit peu tous les jours. Mmh. Bah c'est la même chose. J'appelle ça, c'est pour ça que j'appelle ça hygiène du dos, parce qu'en fait faire 5-10 minutes par jour, c'est très bien.
Mmh. Et c'est suffisant.
Et c'est suffisant.
Voilà.
C'est suffisant pour la plupart. Et puis il y a parfois des gens qui y prennent goût, donc on fait un peu plus.
Et donc là, ce sont des étirements, des assouplissements.
Alors donc c'est la fameuse méthode à 5 points, c'est-à-dire qu'il faut du relâchement, il faut de la respiration, il faut de l'assouplissement. Et puis après, de renforcement musculaire et un retour au calme. Voilà. Donc, il y a 5 points que je décris.
Et on verra ça un petit peu tout à l'heure. Mais ça, alors, à quelle fréquence il faut faire ça?
Bah, soit tous les jours, soit 3 fois par semaine pour les plus feignants.
Et l'idée, c'est que ce soit préventif, parce que finalement, les gens qui viennent vous voir, souvent les kinés ou les ostéos, c'est parce qu'ils ont très très mal.
Oui. C'est trop tard. C'est déjà un peu tard. Quand vous avez mal au dos, c'est déjà un peu tard. Le problème du mal de dos, c'est que ça commence tôt, hein, de plus en plus tôt. On voit 15-16 ans des gens qui n'ont pas de pathologie réelle, des jeunes, des enfants donc, mais qui ont déjà mal au dos. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'ils font de la console toute la journée. Hein. Mmh. Quand vous faites 4 heures de console par jour, ce qui est la moyenne, assis ou couché, vous développez pas votre dos.
Et on voit, il y a de nouvelles pathologies qui sont liées avec l'augmentation et la généralisation du télétravail.
Mais c'est impressionnant. En 1980, il y a une étude de cardiologie qui a été faite récemment. On s'est rendu compte que si on compare un enfant de 18 ans aujourd'hui par rapport à un enfant de 1980, donc il y a 40 ans, il a perdu un quart de son cœur. Vous lui enlevez un quart du cœur. C'est-à-dire qu'il y a trois... c'est très impressionnant.
Mais vous dire en taille?
Oui, en capacité.
En capacité.
En capacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vu le peu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Fédération Française de Cardiologie, vu le peu d'activité physique qu'ont les jeunes, ils ont perdu un quart de leur capacité par rapport à un jeune de 1980. C'est-à-dire moi. Et ouais, vous. Et vous aussi.
Oui, c'est vrai. On a la même jeunesse, le même parcours au rugby. Voilà. Et vous, l'exemple que vous prenez, par exemple, en termes de capacité, c'est Bernard Hinault.
Oui.
Dans votre livre.
Oui, oui.
De mémoire. Hein,
bah, parce que il avait 40 pulsations minutes pour un cœur. La fréquence normale, c'est 70, donc presque la moitié. Il avait un cœur très puissant, mais surtout capable de bien se relâcher. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le relâchement musculaire, en particulier le relâchement du cœur, parce que le cœur, c'est un muscle, hein, permet qu'en fait, ça se dilate bien et qu'il se remplisse bien, en fait. Le remplissage du cœur se fait par une bonne dilatation. Donc, lui, il avait un cœur exceptionnel, comme la plupart des cyclistes, hein, faut pas se tromper.
Est-ce que c'est un sport qui est bon pour le dos? J'avais l'occasion de parler.
Vélo.
Oui, du vélo. Je parlais du vélo, notamment en termes de prévention santé. Le vélo qui a quand même mauvaise réputation, notamment pour les cancers de la prostate et des testicules, notamment. Est-ce que c'est un sport qui a bonne réputation pour les maux de dos?
Alors, pour les testicules, je suis moins spécialiste. Mais pour le dos, oui, ça a un intérêt particulier. C'est que. Ça évite de courir. Ce qui est pas bon quand on a mal au dos, c'est de courir, parce qu'à chaque foulée, en fait, on a une onde de choc et c'est pas très bon. Il y a beaucoup de gens qui veulent courir pour faire de l'endurance. Alors je leur conseille à ce moment-là de faire du vélo, parce que le vélo, il n'y a pas d'onde de choc. En fait, c'est un sport endurant comme la course, mais il n'y a pas ce problème d'onde de choc à chaque foulée. Donc oui, pour ça, le vélo, c'est bon. Et la position penchée en avant du cycliste quand c'est un vélo de course, c'est pas gênant.
Oui, quand c'est un vélo de course, mais quand vous observez les gens qui font du vélo en ville aujourd'hui, que vous regardez la taille de la selle, ils ont la selle qui est beaucoup trop basse.
Oui, souvent. C'est mal réglé.
Parce qu'ils ont l'impression que c'est plus facile de pédaler quand t'as assez les balles.
De toute façon, de manière générale, le vélo, moi, je le recommande pour le dos. C'est mieux que de courir, en tout cas.
Jean-Christophe Berlin est notre invité. On parle de l'hygiène du dos ce matin à l'occasion de la publication de 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos, les bonnes postures à adopter au quotidien. Montrer le livre à la caméra, puisque Jean-Christophe, le livre, vous le savez, vous qui êtes un geek et un fidèle des réseaux sociaux, l'émission est filmée.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Mon invité ce matin, c'est Jean-Christophe Berlin, qui est kinésithérapeute spécialisé en médecine du sport, sportif, un rugbyman. Hein, vous côtoyez bien les rugbymen. Est-ce que les rugbymen, je suis pas obsédé par le rugbyman, mais est-ce qu'ils ont plus de maux de dos que les autres? Moi, j'ai joué pilier pendant 20 ans et j'ai l'impression que quand même, pilier, c'est un poste qui vous expose au niveau du dos.
C'est une catastrophe. En fait, malheureusement, bon, on ne va pas dire de mal du rugby, donc c'est pas moi qui en dirais du mal, mais effectivement, les piliers sont assez exposés, au niveau des cervicales surtout, mais aussi au niveau du bas du dos. Et surtout aujourd'hui, où vraiment le rugby a pris une dimension assez incroyable. Donc oui, ils ont souvent mal au dos, mais enfin, ils sont très musclés quand même, ils sont assez armés, mais il y a de telles pressions qu'ils finissent par effectivement avoir des problèmes.
Et encore aujourd'hui, c'est terminé, les entrées en bélier comme nous, comme votre génération et la mienne ont connu les entrées en bélier, c'est-à-dire qu'il y avait de la distance, et puis, je me rappelle, au niveau des, on entendait clouc.
Ouais, absolument. Heureusement qu'on a supprimé ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entrée maintenant, et c'est beaucoup mieux. Mais il y a encore une forte pression, il y a une très forte pression, il y a un pack qui fait presque une tonne, donc il y a une énorme pression.
Vous publiez 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. Alors c'est un livre plein de bon sens à lire. L'éditeur c'est Le Courrier du Livre. Non, plein de bon sens parce qu'il y a quand même des exemples qui concernent tout le monde dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour ce qui concerne le repassage, vous conseillez d'être assis sur un tabouret. Pourquoi ?
Oui, parce qu'en fait souvent les tables de repassage sont on peut pas les régler correctement et on est obligé de se courber en avant. Et donc la mauvaise position c'est de se courber en avant. Tout dos qui est courbé en avant souffre. Donc il vaut mieux s'asseoir sur un tabouret de bar. Alors pas s'asseoir trop bas non plus parce que la position assise.
Non, donc le tabouret c'est
un tabouret haut, un peu haut juste pour en fait soulager le dos et s'aider de ses jambes en fait parce que quand on est un peu assis, on appuie sur les jambes et sur le dos en même temps et on soulage, on enlève 30% un peu de la pression sur le dos. Donc oui, ça pour les gens qui repassent beaucoup hein. Si vous repassez 5 minutes, c'est pas la peine, mais si vous repassez 2 heures, il vaut mieux être un peu assis, ouais.
Pareil si vous passez l'aspirateur, donc il y a alors parce que tout le monde je savais même pas qu'il y avait une façon de bien passer l'aspirateur pour le dos, bien sûr. Hein.
Oui. En fait, ça s'appelle la prophylaxie. Il y a plein de gestes en fait qui protègent le dos. Et c'est surtout en entreprise, en vérité. Bon, là, je donne des conseils pour les gens à la maison, mais en entreprise, il y a beaucoup de gestes. Les gens qui déménagent, un déménageur, forcément, s'il ne sait pas porter, c'est une catastrophe. Il va durer 15 jours. Mais c'est pareil à la maison. Donc, pour passer l'aspirateur, effectivement, il vaut mieux, quand c'est par exemple passé sous un meuble, il vaut mieux mettre un genou à terre. Parce qu'effectivement, ça protège votre dos. Mmh. Je me présente des exercices comme ça aussi pour charger sa voiture. Quand on charge sa voiture, il faut pas hésiter à mettre le genou sur le rebord de la voiture, parce que ça soulage le dos. Et tout ça permet d'éviter les accidents, en vérité.
Même quand on fait ses lacets, finalement.
Oui, pareil. Oui, quand vous faites vos lacets, il vaut mieux poser un genou à terre.
Alors, il y a une population dont on ne parle pas beaucoup. C'est tous ceux qui font les métiers de la route. Les chauffeurs de taxi, les ambulanciers, les VTC, ceux qui font de la livraison toute la journée. Ce sont des populations qui sont assises toute la journée et qui finalement finissent par développer des pathologies du dos.
Oui, c'est les plus exposés. On a fait une classification et ceux qui sont le plus exposés, c'est les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs routiers, parce qu'effectivement, non seulement ils sont assis toute la journée, mais en fait, ils sont assis dans une position de relâchement. Ce qui fait que leurs muscles ne travaillent plus du tout, en fait, en vérité. Et il n'y a que les vertèbres qui servent d'amortisseurs, et ça finit par, en fait, être une catastrophe. Donc, ce sont les plus exposés. Souvent, en plus, ils ont un peu de surpoids, donc voilà, c'est ces professions-là qui sont les plus exposées.
Qu'est-ce que vous leur conseillez, donc est-ce qu'il y a, par exemple, des exercices qui sont spécifiques à cette population, puisque finalement, on pourrait faire 15 minutes d'exercice tous les jours en s'arrêtant sur le bord de la route?
Oui, en fait, c'est compliqué quand on est chauffeur de taxi ou chauffeur routier, parce qu'ils ont des contraintes horaires, évidemment. Mais je leur conseille, effectivement, qu'au moment des pauses, de faire des exercices. Alors, on peut aussi faire des exercices quand on est au feu rouge, par exemple. On peut faire des exercices dans son siège. Il y a des exercices qu'on peut tout à fait faire assis. Donc, quand ils sont arrêtés, évidemment, pas quand ils conduisent, mais c'est possible de faire des exercices pendant la conduite, en vérité, quand on est arrêté. Ça, c'est possible de le faire, et c'est pas mal. Et puis, surtout, au moment des pauses, plutôt que d'aller boire un café, ce qui n'empêche pas, vous pouvez boire un café, mais faire 5 minutes d'exercice, c'est bien.
Est-ce que vous conseillez, comme vous conseillez pour les personnes qui sont au bureau, d'avoir le dos bien calé au fond de son siège quand on est en voiture?
Alors, je montre dans mon livre les bonnes positions assises, puisque malheureusement, on passe beaucoup de temps assis, donc il faut quand même adopter la bonne position assise. Et effectivement, il faut caler son dos au fond du siège, et non pas au bord du siège, plutôt au fond du siège, et puis s'appuyer sur le dossier.
Pourquoi?
Parce que ça respecte les courbures physiologiques du dos, et ça permet de pencher le dos un petit peu en avant, ce qui fait que les muscles sont en contraction, au lieu d'être relâchés. Si vous mettez les fesses au bord du fauteuil et que vous vous penchez en arrière, le dos est en une position antiphysiologique et les muscles sont complètement relâchés, c'est pas bon. Enfin, il faut que les muscles soient un petit peu en tension pour vous soutenir. Donc c'est l'inverse, il faut mettre les fesses au fond et se pencher un petit peu en avant et reposer vos bras, ce qui vous soulage, reposer les bras sur le bureau, si vous pouvez.
On découvre que c'est donc une aberration aujourd'hui de rester assis entre 7 et 8 heures par jour pour tous ceux qui font des travaux au bureau. De plus en plus dans les entreprises, on a compris qu'il fallait se dégourdir les jambes au moins toutes les 2 heures ou alors que même il fallait changer de position, qu'il fallait se lever pour travailler. Quels sont les exercices qu'on peut faire au bureau justement pour bien gérer la santé de son dos ?
Déjà, il faut que tout le monde en ait bien conscience. Le secteur tertiaire évolue, les Japonais sont très en avance, les Américains en Californie sont très en avance sur nous par rapport à ça, sur l'ergonomie, et tout le monde a bien compris qu'en fait, surtout les chefs d'entreprise ont bien compris que s'ils veulent garder le personnel en bonne santé, il faut leur accorder des pauses régulières, mais courtes. Mais des pauses où on se lève et on va faire des étirements, où il y a une salle de repos, une salle de... Alors pas longtemps, mais il faut se lever toutes les heures.
On n'a pas cette hygiène, vous rappelez...
Non, on l'a pas en France, moins qu'ailleurs.
Ouais. Vous rappelez une expérience que vous avez eue hein, quand vous êtes allé en Chine, et vous avez remarqué que les Chinois, à l'époque, tous les matins, ils faisaient leurs 15-20 minutes de gym. Hein.
Oui, les Chinois, c'est ancestral, hein, ça date depuis très longtemps, ils ont toujours fait ça. Là, je pense que c'était un peu dicté par le gouvernement aussi, mais en fait, ils faisaient une heure de gymnastique tous les matins, tous. Alors, ce qui était sympa, c'était toute génération confondue. Les vieux, les jeunes qui aident les vieux, etc. Donc ça, c'était assez sympa. Ils faisaient ça dans la rue. Moi, j'ai vu faire ça dans la rue pendant très longtemps. Bon, la Chine a évolué aujourd'hui. Elle est beaucoup plus dans le secteur tertiaire. Elle est beaucoup plus dans un monde moderne. Et je pense qu'ils ont plus mal au dos aujourd'hui qu'ils avaient mal à l'époque.
Alors, la méthode que vous avez mis au point et que vous partagez dans votre livre s'appelle la méthode A4R. Des R, c'est le R de relâchement musculaire. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un relâchement musculaire satisfaisant pour vous, Jean-Christophe Berlin?
C'est le vrai relâchement musculaire, c'est quand le muscle est atone, c'est-à-dire qu'en fait, on peut enfoncer son doigt dedans. Si vous enfoncez votre doigt dans le muscle, ça veut dire qu'il est suffisamment relâché. Si vous enfoncez le doigt et qu'il rebondit, ça marche pas. Ça veut dire qu'il est tendu. Un muscle relâché, ça veut dire que l'articulation qui le fait fonctionner, parce qu'un muscle, ça fait fonctionner une articulation, ça veut dire que l'articulation qui le fait fonctionner est au repos, c'est-à-dire qu'elle bouge pas. Donc, la première chose pour avoir un bon relâchement musculaire, c'est qu'il faut être immobile. C'est très important d'être immobile et dans une position de confort total. Et là, à ce moment-là, vous pouvez relâcher vos muscles correctement et déjà prendre conscience de la contraction du muscle, savoir que votre muscle est contracté parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Toute la journée, on a les épaules haussées sans s'en rendre compte. Mais si je vous dis baisser les épaules, vous voyez que c'est une position différente. Donc en fait, il faut prendre conscience de sa contraction musculaire et ensuite obtenir un relâchement. Je montre comment dans mon livre.
Et donc là, il faut maintenir donc.
Une fois que vous l'avez, vous le maintenez.
Faut le maintenir, c'est ça.
Ouais.
Et il faut le maintenir toute la journée.
Alors toute la journée, c'est compliqué. Mais en fait, dans ma méthode, si vous voulez, je commence par ça, par le relâchement musculaire, parce que c'est le relâchement musculaire qui va permettre de faire des assouplissements. Si vous voulez faire des assouplissements sur un muscle qui est tendu, ça marche pas, c'est pas possible. Il faut que le muscle soit relâché d'abord pour pouvoir s'assouplir ensuite.
Alors un exemple de méthode que vous utilisez pour obtenir un bon relâchement musculaire.
Les épaules, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Vous haussez les épaules vers les oreilles, donc là les trapèzes sont contractés. Voilà. Ensuite vous les baissez complètement et là ils sont relâchés. C'est simple, hein. Et vous gardez le relâchement.
D'accord. Voilà. Ouais, celui-là il est facile à...
C'est assez simple. Ouais. Mais on peut le faire pour tous les muscles du dos. Donc là je peux pas vous le montrer parce que ça se fait allonger, mais vous, par exemple, quand vous êtes allongé sur le dos, vous enfoncez la tête dans le sol. Ça contracte les muscles et ensuite vous relâchez. Et vous gardez le relâchement.
Est-ce qu'il y a une bonne méthode pour étirer ces muscles?
Alors donc, une fois que c'est relâché, on passe aux assouplissements. Donc là, on a fait le relâchement musculaire et c'est important. Ensuite, l'assouplissement, oui. L'assouplissement, ça se fait progressivement. C'est-à-dire qu'on ne tire pas d'un coup sec sur son muscle au risque de le détériorer. Donc en fait, ça se fait lentement, ça se fait progressivement et ça se fait dans la durée. C'est-à-dire qu'on doit rester longtemps dans la position d'étirement. Si vous voulez toucher vos pieds, vous mettez vos mains en direction des pieds, vous y allez progressivement et vous restez en position longtemps, c'est-à-dire 20-30 secondes. Il faut rester longtemps dans la position, sans à-coups, et le relâchement se fait progressivement. Ensuite, vous remontez puis vous recommencez. Il faut recommencer plusieurs fois.
En théorie, plus on le fait, plus c'est facile.
Oui, et alors c'est porteur d'espoir parce qu'en fait vous avez des mamies extraordinaires qui à 80 ans font le grand écart, donc c'est possible. Il faut pas croire qu'avec l'âge, qu'avec la sédentarité, on reste toujours raide. C'est pas vrai. On peut s'assouplir à tout moment de la vie et quel que soit notre.
On n'est pas ou soit souple ou soit raide.
Non,
c'est pas vrai.
Oui, il y a quand même des prédispositions, mais en tout cas on n'est pas condamné. On n'est pas condamné.
Ça se travaille.
Ça se travaille.
Et quel que soit l'âge.
Et quel que soit l'âge, oui. Et quel que soit votre forme aussi, votre état de forme. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je n'ai jamais fait de gym. » Justement, vous n'avez jamais fait de gym, allez-y.
C'est le moment.
C'est le moment.
Quel lien y a-t-il entre le R de respiration et le dos?
Alors, le R de respiration, ça permet en fait d'oxygéner. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas très bien respirer. Donc, le yoga nous apprend comment respirer, par exemple. Il y a toutes sortes de façons de respirer. Mais plus vous respirez correctement, plus vous oxygénez vos muscles, en fait, plus ils sont en bonne santé. Donc, respirer, c'est oxygéner. Il faut comprendre ça. Donc, un muscle bien oxygéné, c'est un muscle qui va bien fonctionner. Le muscle fonctionne avec de l'oxygène et du sucre. Je vous dis pas de manger du sucre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut bien respirer, apprendre à bien respirer avec son ventre de façon ample, utiliser tous les mouvements de la respiration, c'est-à-dire l'écartement des côtes, la montée du thorax, etc.
Donc, respirer avec son ventre, alors que les gens ont l'impression de respirer avec leurs poumons.
Oui, mais en fait...
Ça s'apprend à respirer avec le ventre.
Oui, ça s'apprend, parce qu'en fait, quand vous gonflez le ventre, vous laissez de la place au diaphragme qui descend, et il aura plus de place pour étirer les poumons.
Donc ça, c'est les choses des exercices, ouais, qui là aussi s'apprennent, et petit à petit, la respiration descend. C'est ce qu'on apprend aussi dans certaines écoles de journalisme.
De journalisme, de la musique, des orateurs, les chanteurs, bien sûr.
Ouais. Puisqu'on apprend à placer sa voix, placer justement, sûr, à respirer avec le ventre. Quels sont les bons muscles pour avoir un bon dos? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de muscles?
Alors, on parle beaucoup des abdominaux, ça m'agace un peu. On parle beaucoup du psoas.
C'est très la mode, ouais.
Ouais. On parle beaucoup du psoas aussi aujourd'hui, qui est un muscle un peu particulier. Il faut comprendre que les muscles du dos, c'est les muscles du dos. C'est-à-dire qu'en fait, les muscles qui sont dans votre dos, ceux qui vous soutiennent, en fait, sont dans votre dos. Donc, ce sont ces muscles-là qu'il faut travailler en priorité. Et ce sont des muscles profonds qui vous permettent, ce sont des muscles érecteurs. Je vais peut-être vous amuser, mais ça vous permet de vous tenir droit. Donc, c'est ces muscles-là, les muscles érecteurs, qu'il faut travailler en priorité. Ensuite, les abdominaux, effectivement, soutiennent la colonne vertébrale en avant. Mais c'est plus important d'avoir des bons muscles érecteurs que le reste.
C'est-à-dire que les muscles du dos sont les muscles du dos.
Exactement.
Donc là aussi, il y a des exercices pour travailler ces muscles du dos et pas besoin de faire avec des poids ou d'aller à la salle. C'est ça que vous expliquez. Hein.
Bien au contraire, parce qu'en fait, en allant à la salle, souvent on se fait du mal. Nous, c'est ce qu'on appelle la consultation du lundi. Les gens qui font de la gym le week-end, ils viennent le lundi, ils ont mal au dos. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de faire un peu d'exercice, travailler les érecteurs et il n'y a pas besoin de poids pour ça.
C'est pour ça que je vous fais venir à lundi d'ailleurs. C'est pour la consultation du lundi. On a de la chance puisque Jean-Christophe Berlin, qui ira consulter tout de suite après, est notre invité à l'occasion de la sortie de 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. Votre éditeur, c'est Le Courrier du Livre.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle d'hygiène du dos. Mon invité y tient ce matin, hygiène du dos, parce que le dos, c'est comme les dents. Les dents, ça se lave 3 fois par jour, ça se brosse, pardon. Eh bien, le dos, eh bien, une fois 15 minutes tous les deux jours, hein, c'est pas mal.
C'est
en tout cas, faites vos exercices, ça vous permet. Il n'y a pas besoin non plus, parce qu'on parle de sédentarité. Quand les gens, on leur dit il faut lutter contre la sédentarité, ils s'imaginent qu'il faut qu'ils aillent à la salle 3 fois par semaine.
Non. En fait, la salle, c'est un lieu de rencontre et un défouloir. Mais c'est très bien, j'ai rien contre ça. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le dos soit stimulé dans une salle de gym. On n'y va pas pour ça. On y va plutôt pour être beau, en vérité. Et ce n'est pas le sujet.
Non. Là, on est en train de parler de prévention.
C'est ça.
Voilà, prévention des maux de dos. Pourquoi le dos, ça fait si mal?
En fait, il y a au milieu de la colonne vertébrale, coule une rivière, si je puis dire, qui est la moelle épinière. En fait, la moelle épinière, c'est quelque chose de très important, de laquelle émergent les nerfs, et en particulier le nerf sciatique que tout le monde connaît bien. Et lorsque le nerf est irrité à la sortie d'une vertèbre, ça fait très très mal, et ça peut même être paralysant, ça peut être une urgence chirurgicale. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le dos peut être
tellement douloureux,
très douloureux,
hein. Ça s'apparente au moins à mal de dent au niveau de la douleur.
Oui, hein. Mais c'est tout à fait comparable, puisqu'en fait le nerf d'une dent est tout à fait comparable au nerf sciatique, par exemple. Mais là où c'est très intéressant, c'est le processus du lumbago, c'est-à-dire que en fait le cerveau envoie un influx très fort dès qu'on touche à la moelle épinière. C'est-à-dire que la moelle épinière, comme c'est un centre nerveux principal, si elle est en danger, le cerveau envoie un influx très puissant qui bloque tout. C'est-à-dire que, quelle que soit la position où vous êtes, si vous êtes courbé en deux et qu'à ce moment-là, la moelle est en danger, le cerveau envoie un influx très puissant et vous restez en position là où vous êtes, dans la même position, pour protéger la moelle. C'est quand même bien fait, c'est un beau système de défense.
C'est pour ça que vous êtes plié en deux.
Et vous êtes courbé en deux. Et que c'est irréductible. C'est très puissant. Et il faut donc donner des médicaments puissants pour arriver à relâcher le muscle et revenir en position initiale. Vouloir manipuler un lumbago, c'est extrêmement dangereux. Je le précise. C'est-à-dire que vouloir faire une manipulation sur quelqu'un qui est coincé, c'est quand même très dangereux. On va à l'encontre des signaux de défense et il faut éviter de le faire.
Vous allez à l'encontre de tout ce qu'on nous dit tout le temps. Et moi, je vais vous dire que la plupart des gens que je vois qui sont dans la situation que vous décrivez, ils veulent aller se faire manipuler pour être dépliés le lendemain. Juste après la manipulation.
Ça peut se comprendre parce que c'est quand même très douloureux et puis la position est très inconfortable.
Mais vous dites que non.
Mais non, c'est faire une manipulation vertébrale ou une manipulation d'ostéopathie là-dessus, c'est très dangereux. Et le traitement, c'est de donner vraiment des médicaments puissants, des injections qui permettent de relâcher les muscles, en fait. C'est ça le traitement.
Il n'y a pas de débat là-dessus.
Il n'y a aucun débat. Tout le monde est d'accord, sauf les ostéopathes.
Mais non, il n'y a pas de débat. C'est pour ça que je vous dis que ça serait intéressant de, d'avoir cette discussion.
Oui, on peut l'avoir, bien sûr. Mais enfin, la faculté, là, par rapport à ça, est très claire.
On parlait de renforcement musculaire tout à l'heure. Vous expliquez très bien dans votre livre que vous préférez ce que vous appelez le travail en chaîne musculaire, c'est-à-dire.
Oui. En fait, vouloir travailler un muscle tout seul, par exemple travailler son biceps, ça permet de le gonfler et d'avoir du volume, mais ça n'a pas d'intérêt particulier, puisque au niveau du dos en particulier, les muscles travaillent en chaîne, c'est-à-dire que les muscles du bas du dos peuvent pas se contracter tout seul. Quand vous contractez le bas du dos, bah vous contractez le haut jusqu'à la nuque, donc c'est un travail en chaîne musculaire. C'est pas moi qui ai décrit cette méthode, c'est Madame Mézières, qui était une kinésithérapeute connue, et qui a décrit cette technique de travail en chaîne, c'est-à-dire qu'on travaille en fait de la pointe des pieds jusqu'à la tête, on fait travailler les muscles en chaîne, tous les uns avec les autres, puisqu'en fait c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans la vraie vie, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça marche.
C'est pas un muscle tout seul.
Muscle tout seul, il se contracte jamais. Dans la vraie vie, tous les muscles se contractent ensemble. C'est une espèce de symbiose, d'harmonie. Et Madame Mézières a eu le mérite de raconter ça très bien.
Pierre, je rappelle que vous proposez votre méthode A4R en pratique dans votre livre. Il y a 60 exercices. Pour tous ceux qui veulent avoir un visage jeune, vous proposez des exercices de relâchement du visage.
Oui, parce qu'en fait, c'est sur le visage.
Alors. Et du coup, oui. Ça, c'est super intéressant. Oui.
Pourquoi j'allais dire que c'est sur le visage qu'on voit les rictus. C'est-à-dire quelqu'un qui est tendu, stressé, ça se voit sur son visage. Si vous commencez par détendre le visage, vous avez une chance de détendre le reste.
D'accord. Donc ça, c'est plutôt facile à faire, hein. Je vous le dis tout de suite.
Plus ou moins, c'est les gens qui sont très tendus, ils ont beaucoup de mal à se détendre.
Je voudrais parler d'un autre Jean-Christophe Berlin, le romancier qui a publié un roman qui s'appelle Babacar a disparu aux éditions Sémaphore. Alors, un roman... Roman ou vous avez juste changé les noms et gardé des vrais noms d'ailleurs.
J'ai heureusement changé quelques noms parce que il y a des personnes connues à l'intérieur.
Je voulais la journaliste du Monde. Je me suis demandé qui était la journaliste du Monde.
Je suis sûr que ça vous interpelle, mais au moins c'est amusant, ça donne une raison de le lire parce qu'en fait effectivement.
Est-ce que c'est Christine Fauvé-Missia?
Il y a des gens un peu connus là-dedans, mais je les cite pas évidemment. Oui, non, c'est une histoire vécue, c'est une histoire vraie, une histoire qui m'a touché. Je vous remercie d'en parler parce que c'est un peu confidentiel, bien entendu, c'est pas un livre.
C'est pas confidentiel, c'est un livre touchant. Ça raconte l'histoire du jeune coopérant que vous avez été, oui. Envoyé à Dakar pour être le chef de service finalement de 8 kinés. Hein. Oui, oui. Alors, c'était quel hôpital à Dakar?
C'est l'hôpital principal de Dakar qui existe toujours, qui est un grand hôpital qui à l'époque était un hôpital militaire français, qui maintenant est un hôpital sénégalais. Et ce livre raconte mon attachement à l'Afrique.
Ouais. Vous êtes Pierre Limbert qui arrive en Afrique à un moment donné où il fait un taux d'humidité à désespérer tout le monde. Et à ce moment-là, vous dites que finalement, eh bien, l'Afrique, ça ne s'explique pas, ça se vit et ça se ressent.
Oui, c'est tout à fait ça. Vouloir expliquer l'Afrique, ça serait prétentieux. C'est bien de le vivre, en fait.
Alors, évidemment, il est médecin, mais il aime le sport. Il intègre vraiment l'équipe de rugby nationale du Sénégal?
Écoutez.
Ou ça, c'est de la fiction?
C'est pas de la fiction. J'ai eu cette chance-là. C'était pas très difficile, en vérité. Et je les ai revus il y a peu de temps, parce qu'en fait, ils sont venus, l'équipe nationale du Sénégal est venue en France, à Aix-en-Provence, là, en septembre dernier, pour jouer les qualifications de la future Coupe du Monde. Et j'ai eu beaucoup de plaisir de les revoir.
Oui, vous avez été pistonné par le président. De l'époque.
Je ne dirais rien, mais je connaissais le président Abdou Diouf.
Oui, c'est pour ça.
C'est pas pour ça, je crois pas.
Pourquoi il a pas passé un petit coup de téléphone en disant on a un jeune.
J'aime beaucoup Abdou Diouf et si il m'entend, je le salue.
Bon, celle pour qui vous n'avez pas changé le nom, hein, puisqu'elle a vraiment été médaille d'or du premier 400 mètres haies féminin de l'histoire des Jeux Olympiques à Los Angeles en 1984, c'est
Helmut Awakil. Formidable athlète.
Nawal, que vous rencontrez à Dakar.
Oui, oui, dans des circonstances un peu particulières que je vous laisse découvrir. Et on était dans un dîner et je ne l'avais pas reconnue parce qu'en fait, bon, voilà. Et puis, elle m'a raconté son histoire et en particulier, donc, qu'elle avait couru en short, évidemment, hein, on ne court pas voilé, et qu'elle avait reçu des menaces de mort pendant plusieurs années après à cause de ça. Voilà.
Et lui, pendant ce temps-là, il lui raconte la naissance du rugby. Elle lui demande, mais pourquoi le ballon est ovale au rugby?
Exactement. C'était un échange un peu drôle.
C'était surréaliste.
Ouais, c'était un peu surréaliste, mais c'était sympa.
Ouais. Souvenir que vous en gardez. Vous l'avez revu après?
Non.
Alors, il enseigne, il fait ses débuts d'enseignant de kiné à Dakar. et à la bibliothèque de l'hôpital de Dakar, il découvre un livre de Flaubert et de Georges Sand. Alors ça, c'est vrai, ce livre de correspondance?
Ah oui, moi,
l'anecdote est vraie?
Bien sûr, tout est vrai, oui. J'adore en plus Flaubert et Georges Sand. De trouver ça à Dakar dans une bibliothèque un peu vermoulue, je trouvais ça un peu décalé.
Et le verre était moulu.
Et donc le verre était moulu parce qu'effectivement il y avait un petit trou qui poinçonnait chaque page et c'était un petit verre qui s'était immiscé dans le livre, donc je trouvais ça amusant.
Alors très vite vous faites une réputation, hein. Vous êtes le docteur qui soigne les gens, qui répare les gens, hein,
ouais.
D'une certaine façon. Et on vient vous voir pour réparer les gens qu'on a besoin, hein, de partout, hein, de toute l'Afrique de l'Ouest.
Là. Oui, parce que c'était un hôpital très important, il n'y avait pas d'équivalent dans l'Afrique de l'Ouest, c'était un très gros hôpital. Et en fait, les gens venaient de très loin. Alors, j'ai soigné des enfants, j'ai soigné des nomades, j'ai soigné enfin, toutes sortes de personnes qui venaient de loin, effectivement, qui faisaient la queue. Et c'était assez émouvant parce qu'en fait, les gens faisaient la queue dehors, devant l'hôpital. Il y avait parfois un kilomètre de queue. Les gens dormaient sur place pour avoir une place pour rentrer.
Mmh. Oui, c'était incroyable.
Oui, assez incroyable.
Alors, un jour... Alors, il est en déplacement. À ce moment-là, il est chargé de réparer la jambe d'un jeune qui s'appelle Babacar, qui s'est cassé la jambe. Et là, c'est une rencontre qui se passe. Babacar, c'est un moulin à paroles.
Oui, c'est un petit garçon que j'ai beaucoup aimé, en Casamance, donc dans le sud du Sénégal. Et on fait cette rencontre, on devient amis, j'arrive à le soigner, et puis à un moment, il disparaît. Donc c'est le thème du livre, en fait. Babacar a disparu.
Et on ne sait pas pourquoi, en fait.
Non, on sait pas pourquoi.
Il y a des hypothèses. Bon.
Il y a des hypothèses.
L'histoire se passe en 84, 85, oui, en tout oui. cas au milieu des années 80. Et lui ne se satisfait pas de la disparition du gamin.
Non, parce que ça pose question, si vous voulez. C'est pourquoi soigner des gens s'ils disparaissent? C'est ça l'idée, en fait. Si on soigne des gens, c'est pour améliorer leur vie. Et c'est pas pour qu'ils ne puissent les voir, quoi. Et c'est ce qui m'a touché, et c'est ce qui fait réfléchir sur notre rôle, en particulier à ce moment-là, notre rôle de soignant en Afrique. Est-ce qu'on a été réellement utile ou pas?
Lui, il vous pose la question, il vous pose une question qui vous désarçonne d'ailleurs, il vous demande ce que vous faites là.
Exactement.
Il vous dit, mais il n'y a pas des enfants qui sont malades dans ton pays?
Exactement, c'est un peu désarçonnant. Effectivement, je pouvais me poser la question de savoir qu'est-ce que je faisais là. Ben, je lui dis non, je lui réponds, ben non, voilà, je suis là pour toi parce que j'ai envie de ça.
Vous avez essayé d'en savoir plus sur ce qui était devenu Babacar?
Non, parce que c'est impossible, et puis que ça doit rester le mystère de l'Afrique. L'Afrique a ses mystères, a son mode de fonctionnement, qui parfois est un peu surprenant pour ceux qui n'en font pas partie. Et c'est de le respecter que de ne pas chercher.
D'ailleurs, il va chez Babacar, il pose des questions, il demande où il est passé, qu'est-ce qu'on lui répond?
On lui répond qu'il est parti en famille, et qu'on ne sait pas où il est.
Et lui, il n'achète pas l'histoire.
Voilà.
Vous êtes retourné en Afrique après?
Oui, bien sûr, je suis retourné avec plaisir. Et malheureusement, le Sénégal ne va pas très bien en ce moment, mais je suis toujours très attaché à ce pays.
Et c'est un très beau roman. Alors, vous dites que c'est confidentiel. Non, c'est un très très beau. Hein. Il y a beaucoup d'émotions dans votre.
Oui, oui.
Non, moi, je trouve que vous écrivez super bien.
Rien d'en parler, ça crée d'émotions.
Non, mais vous en parlez super bien en plus, Jean-Christophe.
Ben, ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'en parler avec vous, puisque
ça fait longtemps qu'on vous en parlait. C'est vrai que c'est moi qui c'est pas bien ce que j'ai fait, parce que je me dis oui, parce que moi j'avais lu votre livre et je me dis j'ai aimé votre livre et il faut qu'on en parle. C'est pour ça qu'on j'ai besoin d'en parler avec vous aujourd'hui parce que c'est une très très belle histoire en fait.
Je vous remercie.
Et vous avez une très belle plume. Mais vous êtes vraiment un écrivain, en fait.
Je ne sais pas ce que c'est qu'être un écrivain. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres techniques. Celui-là, c'est plus personnel, effectivement.
Mais vous avez écrit combien de livres, à peu près? Vous avez au moins 15
Une vingtaine. Ouais. J'ai écrit une vingtaine, mais j'ai écrit que deux romans. Ceci étant, je crois que quand on parle sincèrement, c'est plus facile.
Oui, mais on voit. Voilà, ça coule. Très belle histoire. Donc, Babacar a disparu. Le roman de Jean-Christophe Berlin, auditions... Pardon, le sémaphore.
Merci.
Voilà. Et puis pour tous ceux qui veulent prévenir les maux de leur dos, 60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos, quel que soit votre âge, ça se fait partout, ça se fait à la maison, ça se fait au bureau, ça se fait en dehors de la voiture. L'éditeur, c'est Le Courrier du Livre. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de beurrefm. Je vois Faudil qui rigole. Oui, parce qu'il faut dire que vous réécouterez aussi l'émission sur toutes les plateformes qui partagent les podcasts des émissions de BFM.
Formidable.
Merci.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous ce matin et très belle journée santé sur BFM.